Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Décalade. Au sommaire de notre édition, François Boursier, historien, professeur émérite à l'Université catholique de Lyon, pose la question pour le Fait du mois, cycle de conférences qu'il anime pour les amis de l'éducation populaire à Villefranche, un jeudi par mois. De quoi ce mouvement social est-il le nom ? Les nouvelles approches des mouvements sociaux seraient-elles comme une mobilisation porteuse d'un projet de société alternatif ? Réflexion en compagnie de François Boursier, conférencier. Puis, signature du contrat territoire d'industrie Juan Tarar ce lundi 27 janvier à Glézé au sein de l'entreprise Cepovet, groupe leader européen de vêtements professionnels. L'initiative Territoire d'industrie initiée par le gouvernement vise à accélérer la dynamique industrielle sur les territoires avec plus d'un milliard d'euros injectés aux territoires d'industrie. Avec nous Pascal Maillot, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône. Et pour conclure, c'est Patrice Vercher, député conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le copilote du Territoire d'industrie Juan Tarar. Un contrat territoire d'industrie Juan Tarar, nous dit-il, qui a pour objectif de soutenir les industriels dans une reconquête du territoire pour son développement économique. Calade, le journal. Atrazine, Proprisochlore, Permétrine, Monylphénol, Éthoxylée, ces pesticides sont interdits en Europe depuis plus de 10 ans en raison de leur toxicité avérée. Syngenta, Bayer, BASF, Corteva et autres géants de l'agrochimie continuent pourtant de les produire, y compris en France, et de les écouler massivement en Afrique, en Amérique latine ou dans les pays de l'Est. Et selon les informations du Monde, rapportées par Stéphane Mandard, ces entreprises ont engagé les grandes manœuvres jusqu'au sommet de l'État pour conserver cette activité à risque pour les populations exposées, mais très rentables. Car, depuis la promulgation de la loi sur l'alimentation Egalim, le 30 octobre 2018, une menace pèse sur cette pratique assez méconnue. Son article 83 prévoit l'interdiction à partir de 2022 de la production, du stockage et de la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non autorisées en Europe pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou à la préservation de l'environnement. Après des mois d'intense lobbying afin de faire reculer le législateur, l'Union de l'industrie de la protection des plantes UIPP a abattu une nouvelle carte. L'UIPP, qui regroupe les fabricants de produits phytosanitaires, a déposé une question prioritaire de constitutionnalité, QPC, à l'encontre du dit article, estimant qu'il porte une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre protégée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette QPC a été transmise le 7 novembre 2019 par le Conseil d'État, jugeant qu'elle présentait un caractère sérieux. Le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision vendredi 31 janvier. François Boursier, historien, professeur émérite à l'Université catholique de Lyon, pose la question pour le Fait du mois, cycle de conférences qu'il anime un jeudi par mois pour les amis de l'éducation populaire à Villefranche. De quoi ce mouvement social est-il le nom ? Revendications, contestations, mais aussi appréhensions causées par l'hygiène pour les usagers, aux transports et autres, les mouvements sociaux ne se réduisent plus au monde du travail et concernent des problèmes de sociétés diverses. Les nouvelles approches des mouvements sociaux serait-elle comme une mobilisation porteuse d'un projet de société alternatif ? Réflexion en compagnie de François Boursier, conférencier.
C'est une grève la plus longue depuis 1958, hein, parce qu'elle est pilotée par les syndicats, par les organisations syndicales. Il y a un an de cela, c'était les Gilets jaunes. On disait qu'on assiste à un effacement du syndicalisme. Et là, on a plutôt le sentiment que depuis le 5 décembre, il y a un retour, un renouveau, un retour du syndicalisme au plus haut. On dit même que le patron de la CGT est le principal opposant au président de la République. Donc c'est une grève. Et en même temps, ce sentiment que ce n'est pas la grève comme on la vivait autrefois. On a beaucoup comparé à 1995. Tout le monde sent bien qu'en 1995, le pays avait été paralysé. C'est une époque où les postiers jouent un rôle majeur. Aujourd'hui, les postiers ne sont pas au rendez-vous de cette grève. Donc voilà, donc on s'interroge, on se dit, mais de quoi cela nous parle-t-il que ce mouvement social ?
Alors effectivement, on parle de grève, mais on a vu l'émergence aujourd'hui de mouvement social plutôt qui s'étend au personne.
Oui, alors donc il y a un mouvement social qui change de nature là, depuis quelque temps. D'ailleurs, depuis que la CFDT et l'UNSA ont dit on arrête la grève pour négocier, mais la CGT et Sud continuent, on a le sentiment que l'émergence d'une nouvelle donne. Cette nouvelle donne se manifestant par des mouvements plus informels, où il y a des gilets jaunes, des syndicalistes, des gens qui sont sans syndicat, mais qui sont salariés et qui font grève à ce titre-là, parce qu'ils sont dans une entreprise touchée par la réforme, avec des actions sporadiques, on coupe l'électricité, on bloque ici, des mouvements symboliques, il y a des sortes de retraites au flambeau. C'est intéressant à observer, et en même temps, on a quelque part le sentiment que c'est de nouveau une contestation des organisations syndicales qui, pour certaines, n'apparaissent pas en capacité de mener jusqu'au bout le conflit. Et c'est un peu ce que disait Pierre Rosanvallon dimanche soir dans l'émission C'est politique sur la 5. C'est la manifestation davantage d'une impuissance que d'une puissance d'un mouvement qui émergerait.
Et si c'était aussi une mobilisation porteuse d'un projet de société alternatif ?
Mais il est là le problème, c'est qu'on ne le voit pas. On ne voit pas de projet. C'est ça aussi le grand drame du mouvement syndical aujourd'hui, c'est que autrefois, il était quand même toujours articulé à une alternative politique qui se jouait d'ailleurs autour du Parti socialiste, du Parti communiste, qui pesait l'un dans l'autre 35 à 40% des voix. Aujourd'hui, le parti en faveur des animaux a fait plus de voix que le Parti communiste français. Et donc, ce dont est le nom, ce mouvement social, c'est que, justement, n'ayant plus d'alternatives à proposer pour mobiliser les acteurs, on est davantage dans ce que l'historien américain Mark Lilla, dans un livre appelé « L'esprit de réaction », a appelé ce profond désir de conservation. Quelque part, les gens se battent pour qu'on ne change rien, pour qu'on ne touche pas au système, même si on accepterait de le modifier un peu à la marge, mais on ne veut plus en entendre parler de réforme en profondeur. Parce qu'il n'y a plus d'alternative. Quand ce mouvement social fait référence au Conseil national de la résistance pour lutter contre un système universel de sécurité sociale, c'est quelque part le monde à l'envers, puisque le Conseil national de la résistance, lui, voulait instaurer un système universel. Et en ce moment, les avocats manifeste à Villefranche-sur-Saône pour défendre leur modèle.
Et sur le territoire national.
Eh bien, souvenons-nous que quand le Conseil national de la résistance a voulu instaurer un système universel de retraite, vous avez un certain nombre de corporations, je pense aux agriculteurs, qui à l'époque ont dit « ça ne nous intéresse pas, nous on veut rester tranquilles chez nous, laissez-nous tranquilles ». C'était facile à dire parce qu'ils avaient 4 millions d'agriculteurs pour quelques centaines de milliers de retraités. Il y avait quasiment 10 paysans qui travaillaient pour un retraité. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc la MSA est bien contente d'avoir le régime universel pour compenser les manques. Donc l'idée d'un régime universel en soi, elle est bonne, elle est juste. Ça ne suffit pas de dire régime universel par point, c'est juste. C'est plutôt juste, à charge, d'être en capacité d'en négocier l'architecture. Et c'est sans doute là, à mon avis, la stratégie positive de l'UNSA et de la CFDT, c'est que dès le départ, ils ne se sont pas opposés à la retraite à point. Ils ont simplement mis en avant un certain nombre d'impératifs qui étaient les leurs. Il y avait l'âge pivot, il y a la pénibilité, qui est aujourd'hui un des enjeux déterminants de la construction de nos systèmes de retraite. Parce que du point de vue de la pénibilité, dans la même profession, on n'est pas à égalité. Le cheminot qui travaille, pour réparer les rails et qui est dans la nature, au froid et à la pluie, a le même statut que celui qui tient le guichet de la SNCF à Perrache, à Lyon. Ils n'ont pas la même pénibilité. C'est ça qui était intéressant, à mon avis, qui aurait dû être débattu. Mais manifestement, le mouvement social a été dans une impasse à ce niveau-là.
François Boursier, historien, professeur émérite à l'Université catholique de Lyon, pose chaque jeudi par mois une question pour le Fait du mois, cycle de conférences qu'il anime pour les amis de l'éducation populaire à Villefranche, à la Cantalade, à partir de 18h30 à Villefranche. Prochain rendez-vous, le jeudi 13 février à 18h30. Signature du contrat territoire d'industrie Juan Tarar ce lundi 27 janvier à Glézé au sein de l'entreprise Cepovet, groupe entreprise de confection, leader européen du vêtement professionnel, présent également sur les marchés internationaux. L'initiative territoire d'industrie initiée par le gouvernement vise à accélérer la dynamique industrielle sur les territoires avec plus d'1 milliard d'euros injectés aux territoires d'industrie, comme nous le précise Pascal Maillot, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône.
Territoire d'industrie, c'est la volonté de l'État d'identifier en 150 environ territoires sur l'ensemble de l'Hexagone et d'essayer de faire travailler de façon partenariale les collectivités, l'État, les industriels, pour essayer de définir les conditions d'amélioration à la fois du recrutement, de l'innovation, de l'implantation des industries. Je crois que pendant longtemps, on a considéré que l'industrie était un élément qui avait été oublié finalement dans la panoplie économique. Eh bien, le gouvernement démontre que l'attention portée à l'industrie est une attention réelle et qu'elle se fait encore une fois en partenariat sur le territoire et avec de l'ambition. Avec l'ambition effectivement de développer les projets, d'aider, de soutenir, de simplifier. Et ce que nous avons signé aujourd'hui, je pense, est la bonne démonstration dans une entreprise qui a su depuis 3 générations s'adapter, qui a su s'adapter au marché du textile, qui n'est pas un marché facile, au marché des vêtements de travail. Eh bien, nous faisons la démonstration que tous ensemble, nous pouvons aider ces entreprises-là à innover, à recruter et à incarner une belle filière industrielle sur notre territoire.
Alors, un coup de pouce, justement, financier bien évidemment, qui va permettre peut-être d'amorcer le virage de ce changement industriel.
Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que c'est le coup de pouce qui permet effectivement, aux côtés des collectivités, le conseil régional et d'autres, eh bien, de faciliter les choix des entreprises. Les choix des entreprises, ça n'est jamais ni l'État ni les collectivités qui les font, et heureusement d'ailleurs. Mais il faut que les entreprises puissent à un moment donné être incitées à utiliser ou à acquérir la machine qui va leur permettre de gagner un marché, de gagner une part de compétitivité. Et c'est ce que Territoire d'Industrie va permettre de faire.
C'était Pascal Maillot, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, dans le cadre de la signature du contrat Territoire d'Industrie Roi de Tarare, ce lundi 27 janvier à Glaizy. Et pour conclure cette édition, c'est Patrice Verchère, député conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le copilote du territoire d'industrie Rouen-Tarare. Un contrat territoire d'industrie Rouen-Tarare, nous dit-il, qui a pour objectif de soutenir les industriels dans une reconquête du territoire pour son développement économique, favorisant bien sûr l'emploi.
Le territoire d'industrie part d'une volonté de reconquérir des territoires au niveau industriel, de soutenir nos entreprises industrielles. Et le territoire qui nous concerne aujourd'hui, celui de Rouen, Tarare, Villefranche, sont des territoires qui ont une historique concernant l'industrie. Et aujourd'hui, de mettre tout le monde autour de la table depuis plus d'un an maintenant, fait que nous avons sorti un certain nombre d'axes de travail en partenariat avec les chefs d'entreprise, avec l'État, avec l'ensemble des services publics qui tournent autour de l'industrie et de l'emploi, et les syndicats intercommunaux, et ainsi que la région, bien entendu, qui est chef de file avec la loi NOTRe sur l'économie.
Alors, on parle bien d'entreprises, effectivement, qui sont dans l'innovation, qui sont dans, en quelque sorte, le futur de ce qui va faire économiquement les marchés de demain. Hein.
Tout à fait. Ce sont en direction de l'industrie. On parle bien de l'industrie, c'est-à-dire que ça ne concerne pas territoire d'industrie, le commerce ou l'artisanat, c'est vraiment les entreprises industrielles et les entreprises industrielles qui innovent avec un savoir-faire souvent qui date de plusieurs décennies, voire même parfois plus d'un siècle. Là, on est dans des entreprises parfois familiales qu'on va aider à grossir, aider à recruter, aider à investir. C'est ça l'idée du territoire d'industrie, en mettant tout le monde autour de la table, parce que ce n'est jamais évident, notamment pour les petites et moyennes entreprises, de pouvoir se débrouiller dans le dédale des aides, des procédures, et l'idée c'est vraiment d'apporter ceci. Il y a la partie bien sûr de créer des liens entre les différents services de l'État et le chef d'entreprise quand il veut par exemple s'agrandir. On sait toutes les procédures parfois qui sont longues. C'est aussi faire connaître les aides de la région, tous les dispositifs qui existent comme l'innovation, l'aide à l'innovation, et faire en sorte que l'entreprise puisse passer un bond technologique dans son métier. C'est le recrutement également qui est très important, et là la région joue un vrai rôle puisque nous avons en charge les lycées professionnels, les maisons familiales et rurales, les écoles de production. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en partenariat, et très souvent on se rend compte que les uns et les autres discutent peut-être pas forcément assez, et c'est là où quand c'est un peu trop cloisonné, eh bien on connaît pas tous les dispositifs les uns des autres, on connaît pas toujours les demandes non plus des chefs d'entreprise, et on sait très bien que dans notre pays il vaut mieux anticiper, parce que c'est toujours un peu long parfois pour aboutir à l'idée qu'a le chef d'entreprise de s'agrandir ou de se développer.
Signature du contrat territoire d'industrie Rouen-Tarare, ce lundi 27 janvier à Glaizy, un contrat qui vise, pour le gouvernement, à accélérer la dynamique industrielle sur les territoires. La région Auvergne-Rhône-Alpes, au titre de sa compétence en matière de développement économique, est chargée de piloter la démarche régionale. Cette initiative se veut au plus près du terrain, en partant des projets et des besoins spécifiques des territoires retenus. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.